qu'il pourrait arrêter les
Oui,
choses.
ah bah oui, heureusement pour nous qu'il n'a pas arrêté, parce qu'on ne serait pas sauvés. Voilà. C'est comme la plaisanterie tout à l'heure de plus ou moins bon goût, n'est-ce pas? Il est crucifié, on lui dit, alors, descends! Ben, s'il descend, là, ben, c'est fini, le salut s'arrête là. Et, là, on. Non, et si au jardin des Oliviers, il a dit, eh ben, finalement, je n'y vais pas, ben, on était foutus, on était là. Voilà. Et Jésus aurait terminé sa vie paisiblement, vous pensez? De toute façon, c'est de la fiction. Jésus a accepté de mourir. Mais que, pas ma volonté, mais ta volonté. Et le Père veut que la justice soit accomplie et que le pardon soit accompli. C'est pas par cruauté que Dieu, le Père, demande à son Fils de mourir. C'est aussi pour nous sauver.
En fait, moi, ce que je comprends pas, bon, peut-être que c'est
Oui.
pas la culture qu'il faut, c'est dans la mort du Christ, pourquoi on est sauvé? Enfin,
Mais
c'est
parce
ça que
qu'elle est injuste. La mort du
Bon.
Christ est injuste, il est innocent, il n'a pas à être condamné à mort et exécuté.
Oui.
Et donc cette injustice a un prix
Oui.
infini. Et au lieu de réclamer la peine de cet acte mauvais, le poids de cet acte, on devrait être puni pour avoir tué Jésus. Eh bien, au lieu, le prix, le poids de cet acte, au lieu d'être utilisé pour nous condamner une deuxième fois, Jésus dit, eh bien, je le fais pour le pardon. Il renverse l'injustice de sa mort pour qu'elle soit le prix de notre rachat. On l'appelle le rédempteur. Redemere en latin, racheter. Emere, ça veut dire acheter. Redemere, racheter. Redemptum, le participe passé, être racheté. Le rédempteur, c'est le racheteur. Et lui, il est là, il a le prix de son innocence outragé dans ses mains, et il dit, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, le Père, qui n'attendait que ça, dit, tout homme qui adhère à ce sacrifice de l'agneau, de l'innocent, je lui pardonnerai ses péchés. Au nom du sacrifice de mon fils, qui a accepté de mourir à votre place. C'est ça. Il est innocent. Il n'avait pas à mourir sur la croix. Donc il est mort à notre place. En fait. Il s'est fait péché pour nous. La vraie mort, c'est la damnation. La mort corporelle, c'est la fin de la vie terrestre. Donc Jésus meurt pour que nous ne mourions pas, mais dans la haine de Dieu. Il meurt à notre place. La justice divine aurait dû nous tuer et nous damner. Ah, tu veux vivre sans moi? C'est les enfants qui disent à leurs parents, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis de manière, à cette manière très imagée que j'ai de dire les choses, mais c'est un enfant qui dit à ses parents, mourez, disparaissez, vous n'existez pas. Votre propre existence fait ma dépendance. Je veux être indépendant de vous. Et ma parfaite indépendance, c'est que vous mouriez. Voilà. Les parents. Ah, oh ben c'est si comme ça, t'auras pas de dessert ce soir. Ah, ben non, alors. Ça, c'est les parents gentils. Et les parents très justes, ils sortent un flingue et. Ah, oh, quel malfaisant! Ah, oh, dis donc, quelle peste! Bah ben, oui. Il mérite la mort, le gars. Il veut tuer ses parents. Il veut même pas qu'il. Il voudrait qu'il n'ait pas existé. C'est vraiment, c'est dur quand même. Eh bien oui, mais la vie est très sérieuse, hein. Jésus meurt à cause de ça, hein. À cause de tous ceux qui veulent tuer. Alors tuer Dieu, ça sert à rien. C'est pour le geste. On essaye de le tuer et on n'y arrive pas. Mais tuer son prochain, c'est plus facile. Tuer des innocents. Ah, ça, c'est facile. Mais c'est puni. Voyez. Ceux qui se disent, ah, mais qu'est-ce que fait Dieu et tout ça. Une religion sans rétablissement de la justice et sans peine est une mauvaise religion, est une fausse religion. Priver le catholicisme de la capacité de punir le péché, c'est plus une religion. C'est pas la vraie religion. Ceux qui ne regrettent pas leur péché seront punis. Ah, oh, mais pourquoi vous dites ça? Non, il faut plus parler de punition. Mais si, quand même. Adolf Hitler, s'il est mort sans repentir, il est en enfer, le type. Ah oui, ça, vous pouvez le dire. Ça, oui. Ah, bah, oui. Merci. Au moins un. Oui, encore, peut-être que, avant que la balle ait touché la tempe, peut-être que, ou pendant qu'il est en train de, avant que le poison ait fait son effet et que la balle ait traversé, peut-être qu'il a fait, oh, Seigneur Jésus, je regrette. Ou en pensée, voilà. Non, c'est un peu gros. Hein. Alors, il est 9h35. On arrête à quelle heure? À 45? Non. On arrête à 9h45. Le Christ est une seule personne. En lui, Dieu et l'homme sont un seul et même Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ est une seule personne. Le Christ est tout entier Dieu-homme et tout entier homme-Dieu. Le Christ est consubstantiel à Dieu et il est consubstantiel à l'homme. Il a la substance humaine et il a la substance divine. En Jésus-Christ, les deux natures sont unies non seulement par grâce, dignité, autorité, relation, affection, vertu, mais pas par la seule nomination ou adoration, ni par la conversion d'une nature en une autre. Alors, mais pas par une seule nomination. Là, ça commence à devenir très compliqué. Donc, si vous voulez, les deux natures sont unies, mais pas au point qu'on adore l'humanité du Christ. C'est ce que ça veut dire. C'est un peu compliqué. Les auteurs spirituels parlent de notre identification au Christ. Il ne faut pas prendre le terme identification dans le sens absolu. Je suis le Christ. Ou un prêtre, un autre Christ. Je suis Jésus-Christ. Vous voyez? Donc je suis là, dans l'hôpital psychiatrique, je suis Jésus-Christ, je suis Jésus-Christ. En personne, je suis Jésus-Christ. Et puis il y a quelqu'un qui est à côté, n'écoutez pas, ce n'est pas mon fils. Parce que lui, il dit, je suis Dieu le Père, je suis Dieu le Père, je suis Dieu le Père. Voilà.
Lequel est plus...
Voilà. Donc, mais j'ai, dans mon âme, il a été mis une grâce qui, indépendamment de ma sainteté personnelle, agit. Donc j'ai quelque chose du Christ qui agit en moi. Une grâce, un caractère, un sceau dans mon âme. Et c'est pour ça que, malgré tous mes défauts ou les péchés d'un prêtre, les gens auront un peu de mal à le punir ou à ne plus le respecter parce que, ils disent quand même, il y a quelque chose en lui qui dépasse sa nature. Et c'est pour ça qu'on pardonne les péchés, c'est pour ça qu'on fait la transsubstantiation à la messe. C'est pas en tant qu'homme. Et d'ailleurs, les paroles de la consécration, c'est « Ceci est mon corps. » Et c'est pas le mien. Donc je prête mon être au Christ à ce moment-là. On devrait, si vous voulez, s'évanouir de ou trembler ou tomber en extase à chaque fois qu'on dit les paroles de la consécration. Si vous voulez, c'est à travers nous que le Christ va transsubstancier le pain et le vin. Ça ne se fait que par un être humain. Parce que Dieu a voulu qu'il y ait une continuation de sa présence d'une certaine manière. Dans le Christ, les deux natures sont unies selon la subsistance. C'est pour cela que l'union est dite dans la... Comment dire, il subsiste, c'est la personne qui subsiste. Là, c'est, j'arrête parce que c'est trop... Je ne veux pas faire toute la philosophie thomiste. Le Christ ne doit pas être dit seulement... Voilà. Les opérations de la nature humaine dans le Christ sont quand même d'une très haute dignité, du fait de sa nature divine aussi. Oui. Alors, là c'est un peu... Ça devient un peu dur, mais bon. On a, si vous voulez, étant donné que la nature humaine du Christ est assumée par la personne divine, vous voyez, on doit... C'est quand même une adoration lorsqu'on adore le... Si vous voulez, le cœur du Christ. Le Sacré-Cœur, c'est... Comme il y a la volonté divine aussi dans le Sacré-Cœur. Jésus-Christ est fils unique de Dieu, fils naturel et non pas adoptif. C'est selon la nature, hein, la nature divine. Le Christ ne peut être dit serviteur du Père que par allégorie, à cause de son obéissance. Mais il est fils. Le Christ comme homme peut être dit inférieur au Père et au Saint-Esprit. Il est supérieur en tant que Dieu à lui-même comme homme. Et il est inférieur en tant qu'homme à lui-même comme Dieu. Une petite aspirine ? Le Christ a deux nativités. L'une éternelle comme Dieu, dans la Sainte Trinité, l'autre temporelle comme homme. Le Christ a été conçu, est né et il est mort, saint et sans péché. Il n'avait pas le péché originel. Jésus est Immaculée Conception. De plus, il est impeccable même avant sa résurrection. C'est-à-dire qu'il n'a jamais péché. Après sa conception. Le Christ n'avait pas besoin de purification. Saint Jean-Baptiste dit, mais je vais pas te baptiser. Et là, Jésus lui dit, baptise-moi, sinon... Voilà, plouf, plouf. Parce que Jésus, là, représente l'humanité. Et il est baptisé en tant qu'il représente l'humanité. À titre personnel, il n'a pas besoin d'être baptisé. Mais il... Et Saint Jean-Baptiste n'insiste pas. Oui. C'est comme lorsque Jésus se met à genoux devant Saint-Pierre et commence à lui laver les pieds. C'est les serviteurs qui faisaient ça. Et Saint-Pierre dit « Oh, pas du tout !» Mais oh, alors là, jamais, 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 jamais !» Et alors Jésus, très simplement, lui dit « Eh bien, tu vas te damner !» Ah, ben vu comme ça, c'est-à-dire, tu n'auras pas, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Oui, alors, alors non seulement les pieds, mais les mains et la tête, hein. Il comprend rien du rien, mais il vit cet instant, et il comprendra plus tard. Et le Christ lui-même le dit. Vous comprendrez pourquoi je vous ai lavé les pieds. Parce que vous êtes pur, mais pas entièrement. Il fallait que même la poussière qui se met dans les pieds lorsqu'on marche sur la route. C'est pour ça qu'on dit que les apôtres sont confirmés en grâce. Le Christ a eu les dons du Saint-Esprit, en particulier celui de crainte de Dieu. Vous voyez, en tant qu'homme. Le Christ n'a pas été sujet aux passions déréglées ou mauvaises, et il ne s'est pas amélioré par le progrès de ses œuvres. Alors on dit, oui, mais on dit que l'enfant Jésus avait une croissance en âge et en grâce. Mais c'est par son développement humain, il est toujours au maximum de son développement. Vous voyez. Le Christ a eu de bonnes passions. Par exemple, la sainte colère ou la vraie tristesse devant un vrai mal. Parce que la plupart du temps, on est triste, mais pas pour une bonne raison. Qu'on soit triste pour une bonne raison, c'est légitime. Mais qu'on soit trop triste, il faut se raisonner. Oui. Jésus croissait en sagesse, en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est Saint Luc, chapitre 2, verset 52. Il faut bien prendre cette phrase. Les Ariens s'appuyaient sur ce verset pour nier la divinité de Jésus. Nous disons que Jésus croissait dans sa nature humaine seulement en science acquise expérimentale. Imaginez, l'âme de Jésus, en Dieu, voit toute la création. Et comment la création s'est faite? Mais avec ses yeux, il voit une pierre, un arbre, une fleur, il la voit. Avoir une connaissance spirituelle des choses et avoir une connaissance matérielle d'une chose, c'est différent. Jésus sait que le centurion va lui demander la guérison de son serviteur ou de son enfant, il le sait. Et d'ailleurs, la personne divine de Jésus le sait de toute éternité, en plus que le centurion va lui poser cette question. Mais il l'entend au moment où le centurion lui pose la question, dans le temps. Et l'âme humaine de Jésus réagit à cette connaissance directe. Quand Jésus dit « Qui m'a touché ?», c'est pas parce qu'il ne sait pas qui l'a touché. Au milieu de toute cette foule, dans la science divine, il sait qui fait quoi, qui pense quoi, au bout du monde. Mais il veut que la femme se manifeste. D'ailleurs, les apôtres disent « Qui t'a touché ?» Enfin, on est pressé par la foule. C'est une blague hein? Là, c'est l'humour du Christ, en fait, aussi. Il y a quelque chose d'humoristique dans cette phrase. Il est là, tout le monde le touche, tout ça, machin. Il dit « Qui m'a touché ?» C'est drôle, non? Vous trouvez pas? Et les apôtres, ils trouvent pas ça drôle. Parce qu'ils sont écrasés par la foule, ils sont là. Qui l'a touché? Non, mais il y en a d'autres comme ça. Ce n'est pas pour lui-même que le Christ a offert un sacrifice au calvaire, en tant qu'homme. C'est pour glorifier son Père et pour opérer le salut des âmes. Le Christ a souffert librement sa passion. Le Christ a accompli des miracles par sa propre vertu et il a fait des prophéties, c'est-à-dire il annonce l'avenir. Mais à un moment donné, voyez-vous, en tant que fils, il laisse au Père l'heure de la fin des temps. Ça m'horripile. Il dit, ah, je le dis pas. Et les apôtres, Et la Begafuji, C'est quand? C'est le secret du Père. Ben oui, mais moi, oui, mais quand on en a marre de tous les péchés qui sont partout là, on a envie que ça s'arrête. Nous-mêmes aussi. Regardez tout. Oui.
Connaissance,
elle a eu sûrement des révélations. Et puis elle scrutait l'écriture. Elle l'avait déjà scrutée avant, elle l'a scrutée après. Ben oui. Et puis quand le Christ se révélait, lui, elle était là. Hein. Elle écoutait aussi. Hein. Et quand l'enfant de 12 ans lui dit « Je dois être aux affaires de mon père », et Saint-Luc dit « Il ne comprend pas. Hein. » C'est un peu trop élevé. Saint-Joseph, ça lui rappelle qu'il est le père adoptif. Mais ensuite, il toque et après, il... Mais il rappelle certaines choses, parce que 12 ans, c'est la maturité spirituelle. Voyez, la bar mitzvah de Jésus. Dès le commencement, l'âme du Christ a connu dans le Verbe tout ce que Dieu connaît de science, de vision. Donc Jésus, il est là, bébé, il peut vous parler français, anglais, serbo-croate, chinois, japonais, tous les dialectes d'Australie, d'Afrique, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, à l'envers, à l'endroit. Mais bon, il ne le fait pas parce que ça étonnerait tout le monde. Mais c'est ça, j'aime bien cela, vous voyez, parce que c'est nié hein, souvent, ça. L'âme du Christ a connu dans le Verbe tout ce que Dieu connaît. Mais dans le Christ Jésus, on pourrait distinguer trois substances, le Verbe, l'âme, la chair. Mais il est préférable de dire que dans le Christ, il n'y a qu'une personne et deux substances, la substance divine et la substance humaine. Parce que c'est vrai qu'une chair humaine est quelque chose en soi. Mais l'Église dit non. Le Christ, mais non le Verbe, est né dans le temps. Il a été créé et prédestiné au salut. En tant qu'homme, le Christ n'est pas omniprésent. C'est dans sa divinité qu'il est omniprésent. Et là, on commence à rentrer dans des détails trop forts. Donc je termine. Oui, pour arriver à 10h, alors que c'est normalement 21h30. En tant que Dieu, le Christ est impassible, immortel, éternel. En tant qu'homme, il est passible, mortel et temporel. Les vérités exposées au sujet de l'incarnation constituent un mystère. C'est-à-dire que ce n'est pas évident pour la raison humaine. Je pense que vous l'avez compris. Le Verbe s'est fait chair pour nous sauver, parce que l'homme déchu ne pouvait être relevé, ni par les forces de la nature, ni par la loi mosaïque, la loi de Moïse, mais seulement par les mérites du Christ. Le Christ est mort sur la croix, afin que la nature humaine, perdue par Adam, fût réparée par lui, fils de Dieu et fils de l'homme. Par sa mort en croix, le Christ nous a rachetés et réconciliés avec son Père. D'où il suit que le Christ est le rédempteur et le médiateur entre Dieu et les hommes. Le Christ sauveur a satisfait pour les péchés du monde entier et de tous les temps, à cause de son innocence. Et sa satisfaction est infinie. Le Christ Jésus s'est incarné et a été conçu dans le sein de la Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit. Ainsi, il est né de la Vierge. L'Église nous enseigne que Saint-Joseph est le père putatif ou adoptif de Jésus. La mère de Jésus, épouse de Saint-Joseph, est demeurée toujours vierge, de même que son époux. La Sainte Vierge Marie a été fécondée par le Saint-Esprit. Elle est restée vierge après sa maternité divine. Le corps du Christ a traversé les tissus de la Vierge Marie comme la lumière traverse le verre. Et alors vous dites, oh, c'est trop surnaturel. Bon, que Lazare, qui était pourri, hein, ressuscite, c'est surnaturel aussi. C'est pas mal de reconstituer la matière d'un bonhomme gonflé et pourri. Hein. Eh bien, Jésus, lui, n'a pas déchiré la membrane de sa mère, les tissus de sa mère. C'est tout. Et ceux qui ne, les théologiens qui le mettraient en doute sont hérétiques, et c'est tout. Vous avez sur les icônes orientales trois étoiles. Vierge avant, pendant, après. Pendant sa vie terrestre, alors vous me dites, c'est bien parce que il y a une sorte de dignité d'une nature humaine, à la fois vivante et terrestre, mais aussi spirituelle.
Les archéologues qui ont trouvé dans les antiquités chinoises, reliées à la recherche sur Saint Thomas, quelques représentations où justement la Vierge éblouie par cette présence qui serait comme ça.
Oui, oui. L'enfant Jésus sort de son ventre comme il entre dans le cénacle, porte fermée. Oui. Alors, les esprits chagrins vont dire, mais alors comment le cordon ombilical a-t-il été coupé, tout ça? Eh bien, il a été tranché. Oui. Et là, pour le coup, c'est à la fois miraculeux et à la fois voulu, voyez, par Dieu. Pendant sa vie terrestre, Jésus a agi en homme véritable. Il a mangé, il a bu, il a dormi, il s'est fatigué, il a eu faim et soif, il a souffert, il a pleuré, ce qui est attesté par les évangiles. Pendant sa vie terrestre, Jésus a été pauvre, mais pas absolument, puisqu'il n'a jamais manqué. Mais on lui fournissait tout. Mais il n'a jamais possédé quelque chose en propre. Jésus a souffert et a été crucifié pour nous, sous Ponce Pilate, et même pour les damnés, sous-entendu, qui n'ont pas voulu de ces mérites. Ils les ont refusés. Oui. Et je termine. Jésus est mort pour tous les hommes, mais non pour les démons, qui étaient déjà irrémédiablement damnés. Oui. Pour nous sauver, Jésus s'est fait péché. Saint Paul, Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. C'est-à-dire qu'il a pris sur lui nos péchés, lui qui était sans péché, Saint Jean, chapitre 8, verset 46. Pour nous délivrer de nos péchés, Jésus a offert un véritable sacrifice au calvaire. Et une offrande authentique. Après la mort de Jésus sur la croix, de son côté transpercé, est sorti du vrai sang et de l'eau, et non du plasma, c'est-à-dire un liquide physiologique. C'est de l'eau. Alors du coup, scientifiquement, on se pose la question, et l'Église affirme que c'est du sang et de l'eau. Alors si c'est pas de la lymphe, si c'est de l'eau, d'où ça vient? Eh bien, c'est la plèvre. Et en effet, dans la plèvre, il y a de l'eau. Et pas du... Voilà. Dans les poumons. Au sujet du précieux sang... Voilà. Les reliques insignes du précieux sang, comme celle de Bruges en Belgique, ou celle du corporal ensanglanté d'Orvieto en Italie, proviennent de faits miraculeux. Jésus a été enseveli après sa mort sur la croix, puis il a été mis au tombeau. L'âme du Christ descendit substantiellement aux enfers, limbe des justes. Enfer au pluriel, ici ils ont une belle expression, c'est limbe des justes. Pendant que son corps reposait dans le Saint-Sépulcre. Il va y avoir un hors-série de Terre Sainte Magazine sur la restauration de la chapelle du Saint-Sépulcre. Je vous le conseille, et si vous le trouvez avant moi, je vous le rembourserai, mais il faut m'en prendre un. Je voudrais en avoir un. Ils ont retiré la première plaque, il y a eu une odeur de fleurs dans tout le quartier, toutes les rues autour du Saint-Sépulcre. Les appareils sont électriques sont tombés en berne. Ça, c'est les anges, probablement, voyez, qui, dans leur adoration et leur émotion angélique, ont dû claquer les ondes. Tous les appareils sont tombés en berne lorsqu'ils ont ouvert. Et ensuite, on a trouvé une plaque de marbre des croisés, du temps des croisés. Donc ça renvoie à 700 ans, les années 1200. Et sous la plaque de marbre des croisés, on a trouvé une pierre brute, hein, comme on la sculptait pour déposer les corps. Donc ça, c'est certainement un sépulcre. L'âme du Christ descendit substantiellement aux enfers pendant que son corps reposait dans le Saint-Sépulcre. Jésus n'a pas abrogé ou détruit l'enfer des damnés en descendant aux enfers. C'était plus bas. Jésus est ressuscité le troisième jour par sa propre puissance. Parfois, on dit c'est Dieu l'a ressuscité. Oui, mais c'est la divinité qui a ressuscité Jésus. Et comme Jésus est le Fils, il s'est ressuscité. En fait, c'est un acte de la Trinité, la résurrection de la nature humaine de Jésus. Le fait de remettre le corps et l'âme ensemble, c'est la Trinité qui le fait. C'est Dieu trinitaire. La chair de Jésus est vraiment ressuscitée, elle a été reprise par son âme. C'est joli, hein, comme expression. Après sa résurrection, Jésus a vraiment mangé, mais ce ne fut pas par besoin, car les corps ressuscités n'ont pas besoin de manger. Pourquoi l'Église dit ça? C'est un dogme. Un dogme? Ouais. Ça a été défini par Léon IX, Saint Léon IX. Pourquoi? Parce que, à cause des cathares et des vaudois, qui niaient la nature corporelle du corps du Christ. Alors du coup, l'Église a dû définir solennellement ça. C'est un petit détail. Eh bien oui, mais ça a été défini à cause de l'hérésie cathare. Les cathares disaient, il ne faut pas vivre, il ne faut pas exister. La nature humaine, c'est un ange prisonnier dans un corps. Il ne faut pas avoir d'enfant, il ne faut pas se marier. Bon, c'était un peu lourd, hein. Jésus est monté au ciel en corps et en âme. Jésus est assis à la droite du Père céleste, selon son mode naturel d'exister. Et il règne éternellement. Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts en apparaissant dans son propre corps glorieux. Alors, pour Noël, l'enfant Jésus qu'on met dans la crèche, c'est un vrai petit être humain. Eh bien, cette nature humaine, toute bébé, elle est actuellement quelque part, il ne nous a pas révélé où il est, il a son vrai corps en ce moment quelque part, la Vierge Marie est quelque part, son corps s'est pas dispersé en flots lumineux, il a ses os et sa chair, quelque part. Et donc, de la crèche au crucifixion et au jugement dernier, Jésus est avec son corps. C'est la raison pour laquelle quand on communie à Jésus, Dieu et homme. Et notre nature humaine communie avec la personne du Christ. Et c'est une nourriture spirituelle pour nous et qui nous reconstitue dans la grâce, dans le don de Dieu. Mais voyez-vous, cet enfant Jésus que nous adorons dans la crèche, eh bien nous le verrons en chair et en os à la fin des temps. Et dans la vie éternelle, si nous sauvons notre âme, nous pourrons le voir, le rencontrer, alors même que nous évoluerons sur une terre recréée, dont la surface de la terre aura été réornée. Et puisqu'on aura de vrais corps, voyez-vous, mais on se déplacera. Le Christ se déplace pendant ces 40 jours. À un moment donné, il disparaît, c'est-à-dire qu'il va ailleurs pour pas qu'il soit vu tout le temps. Mais quand il est sur le bord du lac de Génézareth, il est là, il est debout, il a fait cuire du pain, des poissons, et il s'assied à côté de ses apôtres.
Il ne devrait pas voir le Christ, Dieu le Christ, à l'état d'enfant.
Non, Il est.
Il y a un état de bébé. On devrait le voir.
Ah oui, oui, on le verra adulte,
voilà, c'est ça, oui,
tel
oui,
que
oui,
ressuscité. Voilà. Mais attention, quand Jésus apparaît enfant, actuellement, c'est pour toucher notre cœur. Il y a des apparitions de Jésus enfant. Saint Antoine de Padoue, il y a un moine qui ouvre la porte et qui voit l'enfant Jésus dans les bras de Saint Antoine de Padoue. C'est-à-dire que l'enfant Jésus a voulu apparaître sous la forme d'un enfant dans les bras de cet homme qui était d'une telle bonté et d'une telle simplicité d'âme et de pureté, tout en étant un grand théologien et un grand prédicateur. Saint Antoine de Padoue était un docteur en théologie. Eh bien, il a voulu apparaître sous la forme d'un enfant. Donc, Saint Antoine, qui connaissait très bien tout ça, a dit « Oh, c'est gentil !» Parce que bon, je ne l'aurais pas porté comme ça, hein, adulte. Mais c'est impressionnant comment Dieu s'adapte pour nous donner son message aussi. Et vous avez comme ça une institutrice communiste qui est devenue folle, la pauvre, on va prier pour elle. C'était dans les années 50, je crois. Il y avait une petite enfant qui est... Elle se moquait d'elle, je crois que c'était en Pologne ou en Russie, je ne sais plus. Et, alors, tu crois en Jésus, toi? Mais alors, tu l'as vu, Jésus? Ben alors, et s'il existe, il pourrait rentrer dans la classe. Allez, on va appeler Jésus, les enfants, on va voir s'il va venir, s'il existe vraiment. Parce que s'il vient pas, il n'existe pas. L'enfant était comme ça. Allez, viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus. Et là, vous avez la porte de la classe qui s'ouvre. Et dans une boule lumineuse, vous avez l'enfant Jésus qui est dans la boule lumineuse et qui salue les enfants. Toute la classe l'a vu. Hein. Et elle a été internée. Parce qu'elle disait, il est venu. Et elle a été internée.
La prof,
l'institutrice a été internée. Parce qu'elle témoignait du miracle. Elle disait, mais il est venu, on l'a appelé, il est venu, on l'a appelé,
les
il
enfants,
est venu.
Ils ont
ah ben les enfants.
Ah non, ils ont
ben, ils
avaient
eu peur. Mais
sauvés, peut-être.
Comment
ah, les enfants étaient internés,
mais sauvés,
pas...
peut-être.
Mais ça, c'est une fioretti, hein, c'est une histoire vraie qu'on raconte du rideau de fer. Hein. Une apparition de l'enfant Jésus.